Haute Urbain, le podcast qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativet et j'ai réalisé une série de 4 épisodes sur le télétravail, et plus précisément sur les professionnels qui veillent à la santé et aux conditions de travail des salariés.
Françaises, Français, mes chers compatriotes.
Nous voilà plus d'un an après le 17 mars 2020, où les pouvoirs publics ont décidé de recourir à un confinement massif de la population, entraînant une mise en place forcée du télétravail à 100% pour des millions de salariés. Le télétravail a alors été la solution permettant de concilier la poursuite de nombreuses activités économiques tout en tentant de limiter la propagation du virus. Fin mars 2020, selon une étude de la DARES, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, un quart des salariés étaient en télétravail, alors qu'en 2017, seulement 3% de salariés pratiquaient le télétravail au moins un jour par semaine. Rappeler ces données permet d'avoir en tête que le télétravail reste une pratique peu répandue et davantage pratiquée par les cadres. C'est donc un bouleversement des pratiques et des collectifs de travail qu'ont connu des millions de salariés. Ils ont dû alors s'adapter. Transformer leur salon en espace de travail, abandonner leur chaise à roulettes pour leur canapé, troquer leur bureau pour une table basse et échanger leurs collègues avec leurs enfants, leurs conjoints ou encore avec personne, hormis des visages au fond d'écran de mauvais goût quand ça n'est pas tout simplement des écrans noirs. Je me suis alors demandé, mais qui veille aux conditions de travail de ces millions de télétravailleurs et télétravailleuses? Et comment mènent-ils leur mission?
Sur l'activité économique de façon générale, de toute façon, sur l'activité, c'est bien celui sur la continuité, excusez-moi parce que je dis la continuité de l'activité économique.
Pour ce premier épisode, on va s'intéresser à l'inspection du travail et aux agents de contrôle qui se rendent dans les entreprises pour contrôler les employeurs, rappeler les règles et le droit du travail. Ils sont environ 2000 agents de contrôle répartis sur tout le territoire pour faire respecter le code du travail dans les entreprises de toute taille, soit environ 2 millions d'établissements et 19 millions de salariés. Pour rappel, ces dernières années ont été marquées par des réformes de l'inspection du travail qui ont eu pour effet de diminuer les effectifs et ainsi de limiter leurs actions de contrôle. Autant dire que, Covid ou non, leur mission ne semble ni essentielle ni prioritaire.
Alors vous m'interrogez aussi sur un cas particulier. La Direction générale du travail a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire un inspecteur du travail de la Marne.
Pourtant, depuis le début de cette pandémie, et à plusieurs reprises, le gouvernement a parlé des inspecteurs du travail, soit pour freiner leurs interventions de contrôle dans les EHPAD par exemple, en raison d'une pénurie de masques pour le personnel et d'un non-respect des protocoles sanitaires, soit récemment pour les mobiliser afin qu'ils fassent la chasse aux salariés qui se rendent de nouveau sur leur lieu de travail. Mais qui s'inquiète des conditions de travail des télétravailleurs et télétravailleuses, de la totale confusion entre sphère privée et sphère professionnelle que cela implique, et plus globalement, sur les conséquences en termes de santé physique et psychique? Pour tenter de répondre à ces questions, j'ai interrogé deux inspectrices du travail qui vont nous présenter leur mission et nous raconter la manière dont elles travaillent depuis plus d'un an. Nous entendrons Carole et Aurore, toutes deux inspectrices du travail, en Île-de-France et à Paris Intramuros. Nous verrons comment le télétravail non encadré et généralisé, en plus de bouleverser les pratiques, d'exposer les salariés à des risques psychosociaux, échappe complètement aux organes de contrôle de l'inspection du travail.
Le contexte sanitaire, il a forcé un peu le droit à s'adapter à la réalité, on va dire, de la crise sanitaire, et le recours au télétravail a été incité comme une solution de protection des travailleurs pour les éloigner des collectifs et des risques de contamination, et également de santé publique pour limiter les déplacements et les interactions. Mais du coup, on a poussé et demandé aux entreprises d'avoir recours à un dispositif de télétravail qui existait ou pas précédemment dans les entreprises, et selon des modalités qui étaient très peu organisées. Il faut savoir que dans le Code du travail, il n'y a pas de texte qui réglemente le télétravail et qui explique comment il doit être organisé. On est sur un droit et sur des pratiques qui relèvent du champ de la négociation collective et de l'accord d'entreprise ou de branche, mais principalement de l'accord d'entreprise. Le contexte sanitaire a forcé à avoir recours massivement à du télétravail alors que les accords censés l'encadrer et l'organiser n'existaient peut-être pas, ou alors n'étaient pas adaptés, ou pour des postes pour lesquels ce n'était pas prévu, d'où découle un certain nombre de questions en termes d'équipement, de matériel, de prise en charge et de conditions de travail.
Mais est-ce que justement pendant cette période, vous avez été sollicités par des représentants du personnel ou par des salariés eux-mêmes. Quels sont vos moyens pour aller vérifier les conditions des télétravailleurs et télétravailleuses ?
Alors, on n'en a pas. Les inspecteurs du travail, les agents de contrôle, ce sont des agents de constat, c'est-à-dire qu'on va contrôler l'application de la réglementation au moyen des constats visuels et des entretiens qu'on va mener. Donc, on intervient dans des entreprises pour constater nous-mêmes, de visu, le respect de la durée du travail, le respect des règles sur les conditions de travail, sur les équipements de travail, sur l'organisation du travail, sur les règles d'hygiène, etc. De fait, dès que le travailleur est chez lui, à son domicile privé, on ne peut plus constater ses conditions de travail, on peut même beaucoup plus difficilement constater la réalité de sa durée du travail, de son temps de repos, et pratiquement on ne peut pas. Télétravail va constituer un sérieux obstacle à l'exercice de nos missions. Depuis la pandémie, la situation est quand même très différente, puisque le télétravail s'impose sur décision de l'employeur, peu importe que le salarié soit d'accord ou pas, ce qui est déjà un gros changement de philosophie. Et en plus, il s'applique sur 100% de la durée de l'exercice du contrat de travail pour les tâches qui le permettent.
Est-ce que au niveau de votre direction, il y a malgré tout, même entre vous, entre collègues, une réflexion autour des conditions de travail des personnes en télétravail ? Est-ce que c'est au moins un sujet, en fait ?
C'est difficilement un sujet. Il va y avoir effectivement des préoccupations, on va dire, individuelles des agents de contrôle qui, de fait, vont s'en inquiéter. Mais la réalité fait qu'on n'a tellement pas de prise sur cette situation et sur les travailleurs qui sont dans cette situation qu'on ne voit pas comment, dans ce contexte, on peut intervenir concrètement sur leurs conditions de travail. En ce qui concerne la situation réelle de travail et des risques professionnels dans le cadre du télétravail, on n'a clairement aucun moyen d'intervenir là-dessus. S'il n'y a pas d'accord collectif, on est encore plus démunis. Les demandes qui nous sont faites et qui sont formulées par le ministère du Travail, enfin qui sont adressées aux entreprises et sur lesquelles il est demandé aux agents de contrôle de l'inspection du travail de réaliser des contrôles et d'intervenir, ne sont pas non plus prescriptives. En fait, toutes les consignes qui ont été données, le guide national, le cadre national par le ministère du Travail, le Conseil d'État vient encore, dans le cadre de cette crise sanitaire, rappeler que c'est pas du droit prescriptif, c'est du droit souple. C'est des incitations qui sont faites aux entreprises d'agir de telle manière pour prévenir les risques pandémiques. Mais en réalité, la seule valeur normative qui existe aux règles fixé par le ministère du Travail, hein, c'est les principes généraux de prévention. C'est une obligation générale qui est faite à l'employeur d'évaluer tous les risques professionnels auxquels peut être confronté un travailleur et de mettre en place un plan d'action pour permettre de les limiter. Et c'est en application de cet accord, hein, qu'il est demandé aux employeurs de prendre en compte le risque épidémique, de prendre en compte le risque de contamination sur les lieux de travail et d'avoir recours massivement au télétravail à chaque fois qu'il est possible. Mais en fait, l'agent de contrôle, la seule façon qu'on aura, nous, d'intervenir, il est dans ce cadre très interprétatif, en fait. Est-ce que l'employeur a bien pris toutes les dispositions pour protéger le salarié ?
Depuis un an, il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été mises en place sur les conditions des personnes en télétravail. Alors, on peut dire qu'il y a un petit peu deux phases. Il y a eu la phase du premier confinement où les choses étaient assez strictes et où les écoles étaient également fermées, donc pour les personnes qui avaient des enfants, se sont retrouvées à télétravailler en présence de leurs enfants, ce qui visiblement a mis en avant un certain nombre de difficultés. On a pu voir que les femmes ont été aussi durement exposées pendant cette période de télétravail et notamment au moment du premier confinement en mars. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments qui, justement, sur les questions d'évaluation des risques professionnels ou d'évaluation des risques psychosociaux aussi, la question vie privée, vie professionnelle, la question des horaires de travail, la question des pratiques managériales. Enfin, il y a quand même tout un tas d'éléments, notamment sur cette obligation de moyens de la direction sur les risques professionnels qui du coup, n'existent quasiment plus, en fait. Parce que les personnes continuent malgré tout à travailler.
Et sur tout ce qui concerne les droits collectifs, hein, les droits à la représentation du personnel, à l'accès aux commissions de santé et sécurité du CSE, n'existe de même plus. Hein. Il n'y a pas que la problématique de ne plus pouvoir contrôler les conditions de ses salariés, c'est que ses salariés n'ont plus recours ni à l'inspection du travail, mais même pas à leurs propres représentants du personnel. Ils peuvent intervenir sur des questions individuelles, mais n'interviennent plus en fait sur ces questions d'organisation et de conditions collective du travail. Donc oui, ça pose de gros soucis. Notre ministère le sait, l'avait un peu acté aussi en prescrivant la possibilité de retour un jour par semaine, justement pour essayer de limiter notamment ces phénomènes d'isolement et de risques RPS qui peuvent peser sur le télétravail. Mais toute la façon dont notre droit du travail est conçu et organisé, de toute façon, se heurte au principe même du télétravail, puisqu'il rend impossible l'accès, le constat, la constatation.
Et ça, vous pensez que c'est quelque chose qui peut bouger ?
Je vois mal comment. Je pense justement que cette impossibilité d'organiser et de contrôler de façon collective les conditions de travail des salariés devrait logiquement être un frein en termes de doctrine de prévention des risques dans les conditions de travail au développement complètement total et complètement sans cadre du télétravail. Plus on va aller vers un télétravail très très souple, très très flottant et le plus étendu possible, plus les droits collectifs et même l'impact que l'employeur et le rôle que l'employeur doit jouer dans la prévention des risques vis-à-vis de ses salariés va être distant et peu efficace. Là, l'employeur, dans le cadre d'un télétravail, n'a plus du tout en charge la gestion de ces risques qui vont revenir individuellement à chaque salarié.
Justement, vous, est-ce que cette période-là, est-ce que ça a amené chez vous une réflexion sur votre rôle, sur vos missions en tant qu'inspectrice du travail ? Est-ce que vous avez eu une réflexion individuelle et peut-être aussi collective sur la manière dont vous pouvez continuer à exercer vos missions ?
Moi, j'ai un peu de mal à revendiquer que des salariés soient mis en situation de télétravail à 100% parce que je pense, je vois, je constate que c'est néfaste en termes de conditions de travail pour les salariés. Après, on est dans les contradictions aussi que font naître cette crise sanitaire. Effectivement, il y a des risques de contamination sur le lieu de travail, il y a des personnes à protéger, etc. Donc oui, on est dans des contradictions d'objectifs et de moyens qui sont un peu compliqués. On est saisi sur les deux champs à la fois. On est saisi par des salariés sur le fait que leur employeur ne veut pas qu'ils soient au télétravail alors qu'eux estiment qu'ils pourraient y être et qu'ils seraient plus protégés s'ils y étaient. Mais on est également saisi par des salariés qui ne peuvent plus être en télétravail parce qu'ils n'ont pas les conditions, tout simplement les conditions de vie qui permettent de le faire sereinement, ou même qui se retrouvent, qui vivent mal l'isolement de leur collectif ou qui ont des soucis sur leurs conditions, sur leur matériel. On est saisi de façon très contradictoire à ce sujet. Ce qui rend notre action encore plus compliquée. Collectivement, non, il y a peu de réflexions collectives à l'heure actuelle de l'inspection du travail, pour la bonne raison que nous sommes, nous, également en situation de télétravail. Nous sommes, nous, également coupés les uns des autres et de ces cadres de discussion et de réflexion, en fait, ils existent assez peu. Nous, on apprend les règles sanitaires du ministère du Travail en même temps que les entreprises. On n'a pas de primauté de l'information. On nous demande de faire des actions, de faire des contrôles, mais il n'y a pas de remontée du terrain vis-à-vis du ministère de ce qui se passe sur le terrain. On est dans un système qui est complètement descendant et c'est vraiment accentué par la crise sanitaire et par le fait que les collectifs de travail d'agents de contrôle de fait n'existent plus parce qu'on ne se voit pas. J'ai un travail seul, mais en plus là on le fait seul sans même avoir les espaces et les moyens de discussion collectif avec nos collègues.
J'aime bien travailler. Mais ça dépend des jours.
Le salarié en télétravail, ça ne veut pas dire qu'il est éloigné du pouvoir de contrôle de l'employeur. L'employeur peut utiliser tous ses outils pour renforcer encore plus son contrôle parce que, en plus, Voilà, il ne l'a pas sous la main, sous ses yeux. Là, il y a eu une note du ministère du Travail pour dire que voilà, on ne pouvait pas imposer la visioconférence. Le salarié avait droit d'éteindre sa caméra lors de réunions de service faites à distance. Parce que ça permet effectivement de filmer chez vous, en fait. Donc vous avez droit de refuser. Mais voilà, c'était pas évident, en fait. Et il y a une résistance des employeurs, en fait.
Cette résistance et cette vision aussi contrôlante, bah, la réponse, c'est aussi de ne pas accorder le télétravail justement aux salariés.
C'est pour ça que c'est très ambivalent. On a été autant saisis, je pense, de salariés qui étaient en difficulté parce qu'on les obligeait à aller sur leur lieu de travail, parce que ça veut dire transport en commun, ça veut dire éventuellement des locaux qui ne sont pas forcément adaptés avec des bureaux individuels, ou voilà, ça veut dire porter le masque toute la journée. Ça peut être vraiment des contraintes très importantes. Des risques que vous prenez d'un point de vue sanitaire, parce que voilà, vous pouvez être exposé au virus. Mais pour ceux qui ont été placés en télétravail, c'est vraiment d'autres risques et qui sont finalement, enfin, avec le temps, je pense que les salariés, elles, se rendent compte que c'est quelquefois encore plus oppressant, en fait, parce qu'il faut encore plus rendre compte de son activité, il faut mettre à disposition son logement pour travailler, éventuellement des équipements que l'employeur fournit pas. Et voilà, l'employeur se décharge de tout ça. Et puis ça veut dire surtout être isolé, hein, voilà, loin de la communauté. Donc si vous avez un manager qui était déjà particulièrement déconnant avant, mais voilà, en télétravail, ça peut renforcer son pouvoir de nuisance. Parce que quand vous êtes sur dans les locaux, éventuellement vous avez eu un entretien avec cet encadrant qui s'est mal passé, vous pouvez aller éventuellement, s'il y a un petit collectif de travail aussi, hein, en discuter avec un collègue. Si vous êtes seul chez vous, vous n'avez personne avec qui échanger, parler de ce qui vous met en difficulté au travail, ou même parler de ce qui vous occupe en ce moment, et voilà. Donc il n'y a plus ces échanges-là non plus.
Il y a une forme de, pas déjà de déplacement, mais de privatisation, en fait. Et même sur la question de l'accident de travail, est-ce que l'accident de télétravail, ça existe
pour
Est-ce que vous avez eu des cas
Une situation, c'est un salarié qui avait reçu un courrier de son employeur. Bah, ça a généré vraiment un coup de stress, et le salarié s'est effondré. Il a fait vraiment un malaise. L'employeur a mis des réserves à la qualification professionnelle de cet accident, en disant c'est un travailleur qui était en télétravail, il n'avait pas à fournir d'efforts, et voilà, nous on comprend même pas comment il pourrait y avoir un accident, en fait. En gros, il était tranquille chez lui au chaud, donc il peut pas y avoir d'accident. Sauf que le travail, il arrive par les outils de télécommunication maintenant, comme il arriverait quand vous êtes dans les locaux, en fait. Déjà, les employeurs ont du mal à reconnaître les accidents dès lors qu'il n'y a pas de blessures physiques. Dès lors que c'est des chocs psychologiques, ils ont déjà du mal à les déclarer dans les lieux de travail. Mais là, en fait, ça va compliquer la possibilité pour les salariés de faire reconnaître des accidents, parce que souvent, en plus, éventuellement, ils n'ont pas de témoins. Ou c'est des membres de leur famille, donc il y a un lien, donc ça pourrait être écarté plus ou moins parce que pas fiable. Donc c'est vrai que quand vous avez un malaise, un accident divers, hein, dans les locaux, il peut y avoir effectivement des témoins, vous avez plus de possibilités de preuves. Et puis en plus, normalement, il doit être organisé les secours, une procédure en cas d'accident.
Et puis il y a potentiellement un médecin du travail, en fonction de la taille de l'entreprise,
oui,
etc.
Oui, voilà, c'est ça. Pour les accidents, ça va être difficile à reconnaître, mais je pense, mais alors là, plus sur le long terme, toutes les maladies professionnelles qui vont être difficiles à reconnaître si là, ça se poursuit, et si les entreprises mettent en place massivement le télétravail. Toutes les maladies professionnelles liées au TMS.
Donc aux troubles musculaires squelettiques.
Oui, si vous n'avez pas les équipements de travail permettant de limiter ces risques, si vous continuez à travailler dans ces conditions-là, sur un canapé, un bout de table, sur un petit ordinateur, sans grand écran, sans clavier, sans souris adaptée, la table à la bonne hauteur, enfin tout ce qu'il faudrait quand vous travaillez sur écran en tout cas, avec la bonne lumière, enfin bref, tout, ben, vous allez fatalement, au bout d'un moment, déjà avoir des troubles visuels, déjà, hein, ça va commencer par ça. Ça, c'est pas déclaré, c'est pas dit, mais tous ceux qui sont en télétravail et qui disposent pas des installations nécessaires, voilà, ils ont mal au dos, ils ont mal partout, en fait.
Est-ce qu'il y a une possibilité de travailler autrement, d'adapter vos interventions, les assouplir, les élargir?
Les textes sur le télétravail, voilà, ce ne sont pas des textes contraignants. Donc, c'est renvoyé à la négociation. Et puis, du coup, nous, l'inspection, bye-bye, quoi. Hein. Par exemple, là, sur la crise sanitaire, là, notre ministre nous dit il faut qu'on y aille dans les boîtes. Elle dit, là, aux médias, il y aura des sanctions. Mais sur ça, on a rien. Parce que nous, notre outil de travail, c'est des textes contraignants. C'est un code avec des dispositions précises qui prévoient des sanctions éventuelles. Si on n'a pas ça, nous, voilà, elle peut faire de l'agitation et nous entraîner dans une politique de communication. On n'a rien là pour travailler là-dessus, quoi, en fait. Donc ça demande à revoir ses textes, déjà, quoi. On a vraiment été démunis. Enfin, donc comment on protège une communauté de travail de la diffusion de virus, d'agents biologiques, même si voilà, l'entreprise ne manipule pas d'agents biologiques, elle peut être exposée, donc comment... Et ben, ça demande à revoir les textes, en fait.
Et ce travail-là, il n'est pas... Il n'y a pas d'impulsion
Non, ben, c'est pas du tout dans la ligne. Hein. Les dernières réformes du Code du travail, hein, c'était arrêter avec ce code rigide, laisser la main aux partenaires sociaux d'adapter ce droit à la réalité, voilà. Tout ce blabla, donc il y a des pans entiers du code qui ne sont plus contraignants. Donc un corps de contrôle, hein, c'est avoir des textes contraignants, hein, sinon en fait ça remet en cause notre travail, en fait, hein. Et puis on sait bien la réalité de la négociation dans les entreprises, donc on a perdu la main, je pense pas qu'on va la récupérer là-dessus. Pour autant, en fait, il y a des vrais risques professionnels et on aurait intérêt à agir. Hein, mais parce qu'en fait, concrètement, hein, c'est vraiment plein de droits qui sont bafoués, en fait. Faire reconnaître son accident, avoir un droit au repos, avoir droit à des outils, des équipements de travail conformes, enfin, des trucs de base, en fait. Hein. Encore une fois, enfin, c'est là où ça va être la limite, c'est contrôler que les locaux sont vides ou pas, c'est renvoyer les salariés chez eux, des fois sans rien. C'est ça la difficulté, parce que nous-mêmes, on l'a expérimenté, donc on sait ce que ça veut dire, de dire « il y a trop de monde ici, rentrez chez vous ». On sait que ça veut aussi dire vous rentrez chez vous et puis vous allez travailler dans de mauvaises conditions, vous n'aurez plus d'horaires. Moi, je travaille à Paris, donc les logements, on sait qu'ils ne sont pas très grands. Très clairement, vous n'avez pas de jardin éventuellement comme en province. Vous pouvez prendre un peu l'air. Vous avez des entreprises où il y a une population assez jeune qui n'ont pas les ressources pour avoir des grands lofts parisiens. Très concrètement, c'est les conditions de travail et aussi de vie qui ne sont pas terribles. Donc il faudrait renvoyer les gens chez eux. Mais on crée un autre risque et on sait que là, on n'aura pas d'intervention. Il n'y aura plus personne.
Effectivement, c'est qu'il y a une forme de... vraiment de privatisation du risque et d'invisibilisation des risques, d'invisibilisation des conditions de travail. Et du coup, une impossibilité pour votre corps professionnel de venir...
C'est du travail à domicile. Et voilà, je pense qu'on a beaucoup d'ouvriers qui se sont battus pour combattre ça, parce que ça voulait dire travailler, fournir les équipements à son employeur, n'avoir plus de temps à soi, temps de repos, éventuellement faire participer sa famille à ce travail-là, enfin voilà, exporter ses risques, quoi. C'est soi-disant aussi une priorité de notre ministère, l'égalité professionnelle, mais pour les femmes en télétravail... Mais c'est des journées horribles. Moi, je le vois de mes collègues femmes travailler et puis se charger de la maison et des enfants en même temps. C'était juste l'horreur. Hein. C'est les premières là qui ont dit on veut revenir dans les locaux, hein, et qui se battent pour avoir le plus de temps dans les locaux, parce que ça veut dire s'échapper de ça et d'avoir un temps à soi pour se consacrer à son travail si on l'aime. Et pas être perturbée, parce que la charge, elle est sur elle, en fait. Hein. Ce confinement, ce recours au télétravail massif, pas organisé. Moi, je refuse même d'employer le télétravail. Je dis travail à domicile. Parce que je trouve que ça, c'est plus parlant, en fait. C'est qu'on a reporté ce travail au domicile du salarié. Peu importe que ce logement soit adapté à sa tâche de travail, peu importe qu'on lui ait remis les outils, qu'il ait la connexion Internet qu'il faut, qu'il puisse travailler, avoir un endroit où il puisse travailler au calme comme il pourrait l'avoir dans ses locaux. Ils ont privatisé en fait ces obligations de l'employeur.
Haut-Urbain, c'est terminé pour ce mois-ci. On se retrouve dans un mois pour le second épisode de cette série sur le télétravail. On s'intéressera cette fois-ci aux médecins du travail, à la manière dont ils maintiennent le lien avec les salariés assignés à domicile. Ils nous en diront plus sur leurs propres conditions de travail et sur les effets du télétravail sur la santé physique et psychique des salariés. D'ici là, sortez couverts, protégez-vous en pensant au code du travail. Et n'oubliez pas que...
C'est Thomas.